Alors, nous allons peut-être faire, comme dans la première partie de la matinée, bien que, effectivement, les deux communications soient certainement très, très différentes. Mais la communication d'Antoine Compagnon est attendue. Alors, évidemment, je ne me donnerai pas le ridicule de dire même un mot d'Antoine Compagnon dans un amphithéâtre où, quand il est seul à parler, cet amphithéâtre déborde, tous les autres sont pleins, et c'est comme la scène vue par l'artiste de Michael Edwards, un fleuve tumultueux qui envahit le Collège de France. Allez, Antoine, allez-y.
Merci, Michel. Je vais essayer de ne pas trop retarder votre déjeuner.
C'est le vôtre aussi, mon frère. Allez-y.
Oui, et le mien. D'autres langues que la mienne, le titre de ce colloque encourage à une réflexion sur soi, sur sa langue. J'aurai donc une langue mienne, une langue à moi. Je posséderai une langue. À vrai dire, je n'y avais jamais pensé. Quelle langue ? Mon enfance, comme celle de beaucoup d'entre nous, a été traversée par plusieurs langues. J'ai passé les 4 premières années de ma vie à Londres, j'ai appris à lire à Tunis, j'ai fréquenté l'école secondaire aux États-Unis. Et je me rappelle avec étonnement l'étonnement de mon premier cours de latin en anglais, avec l'accent anglais, comme mon premier cours d'anglais en américain d'ailleurs. De toujours, j'ai donc le sentiment d'avoir vécu dans plusieurs langues. Ma mère était bilingue, elle était née dans une famille de la petite aristocratie belge, originaire des Pays-Bas, devenue francophone, comme les élites flamandes, mais anglophile. Une famille où on était élevé en anglais, et ma mère avait toujours gardé l'accent irlandais de sa gouvernante. Famille donc où l'on parlait anglais à table, et je n'ai jamais vu ma mère lire de la littérature autrement qu'en anglais. Ma langue française, c'est donc celle de l'école primaire durant les quelques années vécues à Paris. C'est la langue des dictées d'Anatole France, de Georges Duhamel. C'est la langue des récitations de La Fontaine et de Victor Hugo. C'est la langue du Tour de France par 2 enfants, livre de lecture en classe de 8e. Et c'est une langue que j'ai le sentiment de ne jamais cesser d'apprendre. Et c'est pourquoi cette expression « mienne » ne me convient pas tout à fait. Il y a quelques jours encore, je recevais un mot d'un auditeur des cours du Collège de France sur France Culture, choqué de ce qu'elle avait repéré comme un anglicisme dans mon français. Une tournure fautive. Et j'ai une certaine affection pour ces discordances, pour ces écarts, pour cette limite d'une langue et d'une autre, comme dans le poème que commentait Michael Edwards tout à l'heure. J'ai le souvenir aussi du plaisir, de la liberté que j'ai toujours trouvé à écrire en anglais, depuis l'école, et du sentiment de liberté et de jeu que cela me donnait par rapport à cette langue de l'école. Je crois qu'il faut vivre sa langue comme une langue qui n'est pas sienne, comme une langue qu'on ne possède pas. Et c'est la condition qui fait qu'on l'apprend toujours et qu'on peut écrire dans cette langue. Nous ne sommes plus au temps où l'Europe, le monde parlait français, suivant le beau titre osé de Marc Fumaroli, pour évoquer quelques grandes figures de la République des lettres qui, au XVIIIe siècle, conversaient, écrivaient dans notre langue. Ce monde-là ne représentait d'ailleurs qu'une fraction des peuples européens, tandis qu'en France, à l'époque, une bonne partie de la population ne parlait pas le français, qui ne devint la langue de tous qu'avec le triomphe de l'école au XIXe siècle. Et c'est pourquoi j'ai été très sensible au fait, hier, que Marc Fumaroli ait rappelé que quand l'Europe parlait français, le multilinguisme, le polyglottisme triomphait. Et j'ai entendu son propos d'hier sur le polyglottisme français des XVIe et XVIIe siècles comme véritablement l'antidote de cette thèse en faveur d'un multilinguisme naturel. Cette évocation de l'autre langue qui est la mienne, me donne l'envie et une certaine nostalgie de ces grandes familles diasporiques dans lesquelles on n'a pas de langue sienne, mais une multiplicité de langues, une fête de langues, qui rendent d'une certaine façon le titre de ces deux journées non pertinent. Je viens de lire le livre d'Edmond Deval, « The Hare with Amber Eyes, A Hidden Inheritance », qui a été traduit en français sous un titre très proustien, « La mémoire retrouvée ». C'est l'histoire d'une collection de Netsuke, ce qui nous ramène au Japon, ces sculptures miniatures qui sont des ornements vestimentaires. Et à travers l'histoire de ces Netsuke, c'est l'histoire de la famille Efrussi, juif de Berditchev, shtetl de Galicie, négociant en grains, passé banquier à Odessa, et puis établi à Vienne et à Paris avant 1870. Cette collection, c'est celle de Charles Efrussi, directeur de la Gazette des Beaux-Arts, l'un des modèles de Charles Swann, collection passée à Vienne dans la branche autrichienne de la famille et qui est tout ce qui a été sauvé du pillage nazi en 1938 après l'Anschluss. Voilà une famille, une grande famille où l'on parle russe, allemand, français, anglais, mais non plus yiddish, en tout cas en public. Et toute l'histoire est celle du drame de... Enfin, l'un des moments, à mon sens, le plus émouvant, c'est celui du drame de cette famille au moment où éclate la guerre de 1914 et où tout le monde est réuni pour l'été 14 en Suisse, venu de Vienne, de Paris, de Londres ou d'Odessa. Et chacun a sa langue, c'est-à-dire sa nation, les cousins de Paris et de Vienne, de nationalité russe, autrichienne ou française, sont mobilisés de divers côtés et vont se retrouver à combattre les uns contre les autres. Tout cela me renvoie à cette question de la langue d'une tribu, la langue d'une famille qui mêle les langues, la langue d'une fratrie, la langue des cousins. Je crois que c'est celle-là, la langue qui est mienne, la langue fraternelle, la langue adelphique. Et je suis souvent frappé par cette incompréhension que nous pouvons avoir face à la langue de la fratrie. Lorsque l'on retombe dans cette langue des familles, une sorte de jargon, comme ce terme était évoqué hier. Moi-même, quand je me retrouve avec mes frères et sœurs, qui sont nombreux et qui sont dispersés de par le monde, l'évidence, c'est que les autres, nos conjoints, femmes, maris, compagnons, compagnes, n'y comprennent rien, abandonnent face à cette sorte de secret, de langue chiffrée qui n'est ni lexique, ni syntaxe, mais intonation, marmonnement, marmottage, musique. Proust a songé à ce phénomène, et il y a un développement très intéressant dans la recherche du temps perdu sur la famille Bergotte et sur sa conversation qui a laissé son empreinte au plus profond du style de l'écrivain. Le style de Bergotte trouve son origine dans la langue de la tribu. Voici ce qu'écrit le narrateur, ce qu'écrit Proust. Certaines particularités d'élocution qui existaient à l'état de faible trace dans la conversation de Bergotte ne lui appartenaient pas en propre, car quand j'ai connu plus tard ses frères et sœurs, je les ai retrouvés chez eux bien plus accentués. C'était quelque chose de brusque et de rauque dans les derniers mots d'une phrase gaie, quelque chose d'affaibli et d'expirant à la fin d'une phrase triste. Autrement dit, un accent, un halètement, comme Michel disait tout à l'heure, une mélodie, un tempo. Swann, poursuit le texte, qui avait connu le maître quand il était enfant, m'a dit qu'alors on entendait chez lui, tout autant que chez ses frères et sœurs, ses inflexions en quelque sorte familiales. Tour à tour, cris de violente gaieté et murmures d'une lente mélancolie. Et que, dans la salle où ils jouaient tous ensemble, ils faisaient sa partie mieux qu'aucun dans leurs concerts successivement assourdissants et languides. C'est donc ce contraste de la gaieté et de la tristesse, quelque chose comme une modulation animale, instinctive, la plainte est l'égaiement, une sorte d'allegro ou de lamento qui fait la langue d'une famille. Voilà des remarques subtiles sur ces idiosyncrasies phonétiques ou élocutoires qui unissent une tribu sur la linguistique adelphique, sur les automatismes minuscules, les tics que partagent inconsciemment frères et sœurs, siblings, fratries, et qui se perdront à la génération suivante dans la fragilité de cette langue exposée à la dispersion. Et pourtant, c'est le second temps de cette petite analyse proustienne. Chez les Bergotte, ce qui est remarquable, c'est que la langue de la fratrie, les tics de la tribu, seront sauvés. Ils survivront, sublimés dans le style du frère. Le style de Bergotte, sa petite musique inimitable, irremplaçable, c'est la voix de la fratrie. Je cite, « Si particulier qu'il soit, tout ce bruit qui s'échappe des êtres est fugitif et ne leur survit pas. » J'adore cette expression de ce bruit qui s'échappe des êtres comme le plus intime de cette intimité familiale. Mais il n'en fut pas ainsi de la prononciation de la famille Bergotte, car s'il est difficile de comprendre jamais, même dans les maîtres chanteurs, comment un artiste peut inventer la musique en écoutant gazouiller les oiseaux, pourtant Bergotte avait transposé et fixé dans sa prose cette façon de traîner sur des mots qui se répètent en clameurs de joie ou qui s'égouttent en tristes soupirs. Toujours cet allegro et ce lamento. Il y a dans ses livres telle terminaison de phrases où l'accumulation des sonorités se prolonge, comme aux derniers accords d'une ouverture d'opéra qui ne peut pas finir et redit plusieurs fois sa suprême cadence avant que le chef d'orchestre pose son bâton, dans lequel je retrouvais plus tard un équivalent musical de ces cuivres phonétiques de la famille Bergotte. Il n'y a donc rien de plus périssable, de plus fragile que cette langue fraternelle prête à disparaître avec la diaspora adulte, avec l'émancipation de la famille. Se parler, c'est cependant celui qui passe dans le style propre à Bergotte, que Bergotte a métamorphosé dans son style. Proust dit tout cela avec une série de métaphores musicales, des instruments à vent de la sourdine. On se demande bien entendu si Proust a un modèle à l'esprit pour cette langue intime devenue style d'un écrivain. Langue volée, langue transposée, serait-ce celle de sa propre élocution familiale. Mais voici le troisième temps de l'analyse. Ayant métamorphosé l'élocution familiale dans son style singulier, Bergotte la bannit de sa propre parole, de son discours à lui. Il n'en a plus que les traces, alors que les frères et sœurs ont conservé l'élocution de leur enfance. Mais pour lui, écrit Proust, à partir du moment où il les transporta dans ses livres, il cessa inconsciemment d'en user dans son discours. Du jour où il avait commencé d'écrire, et à plus forte raison plus tard, quand je le connus, sa voix s'en était désorchestrée pour toujours, même plus de traces. Proust décrit une sorte de chiasme, si l'on veut, de forclusion, de subterfuge, mais c'est une dissimulation inconsciente. Ayant déplacé la langue clanique dans les livres, Bergotte l'a éliminée de sa parole, ou par une sorte d'intéressant phénomène, et c'est le quatrième temps de mon analyse, il imite quelqu'un d'autre. Le narrateur poursuit en effet, « Bergotte, s'il ne devait rien à personne dans sa façon d'écrire », très intéressant cette phrase, puisqu'il vient de dire qu'il doit ce qu'il y a de plus intime, mais ce qui nous montre que pour Proust, devoir à quelque chose à sa famille, c'est ne devoir rien à personne. Le narrateur vient de dire qu'il lui doit tout, qu'il leur doit tout, il ne se contredit pas, car transmettre les idiosyncrasies familiales, ce n'est pas les voler, c'est au contraire les sublimer. Bergotte, donc, s'il ne devait rien à personne dans sa façon d'écrire, tenait sa façon de parler d'un de ses vieux camarades. Vous voyez qu'il y a une sorte de second chiasme, il parle comme un autre. Tenait sa façon de parler à l'un de ses vieux camarades, merveilleux causeur dont il avait subi l'ascendant, qu'il imitait sans le vouloir, là aussi c'est inconscient, dans la conversation, mais qui, lui, étant moins doué, n'avait jamais écrit de livre vraiment supérieur. De sorte que si l'on s'en était tenu à l'originalité du débit, Bergotte eût été étiqueté disciple, écrivain de seconde main, alors que, influencé par son ami dans le domaine de la causerie, il avait été original et créateur comme écrivain. Quatrième temps de l'analyse, particulièrement intéressante. Bergotte parle comme son vieux camarade. Le camarade est anonyme, mais il ressemble à Charles Swann, c'est-à-dire à Charles et Frussy, dont je parlais tout à l'heure. Un peu, pense-t-on, peut-on penser, comme Proust s'exprimait dans les salons ou dans sa correspondance, à la manière de Robert de Montesquieu. S'il écrivait comme il parle, on pourrait donc tenir Bergotte pour un écrivain de seconde main. Mais, prétend ici le narrateur, il n'écrit pas du tout comme il parle. Ainsi, comme écrivain, sinon comme causeur, il se révèle original et créateur. Admettons ce raisonnement, encore que, sans être étroitement beuvien, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment possible d'écrire tout autrement qu'on ne parle. Quoi qu'il en soit, Bergotte ne serait pas un causeur original, mais bien un écrivain original, même s'il doit l'essentiel de sa petite musique à sa famille. Ce croisement est intéressant. Bergotte parle comme son vieux camarade, mais il écrit comme ses frères et sœurs. S'il leur a pris l'essentiel de son style, il ne leur doit rien. Au contraire, c'est eux qui lui doivent d'avoir sauvé l'inflexion, la mélodie, le gazouillis familial de la disparition. Quelle raison de cette sensibilité de Proust à la question de la langue de la famille ? Chez les Bloch, à Balbec, quand le narrateur et Saint-Loup s'y rendent à dîner à l'ombre des jeunes filles en fleurs, la conversation porte justement sur Bergotte. « Je l'ai rencontré à plusieurs générales, dit M. Nissim Bernard. Il est gauche. C'est une espèce de schlemil. Cette allusion au comte de Camisot n'avait rien de bien grave, mais l'épithète de schlemil faisait partie de ce dialecte mi-allemand, mi-juif, dont l'emploi ravissait M. Bloch dans l'intimité, mais qu'il trouvait vulgaire et déplacé devant des étrangers. » Nouvelle opposition de cette langue intime, langue familiale, avec ses traces de dialecte mi-allemand, mi-juif, de yiddish, et de la langue publique, le français de l'école. Et M. Nissim Bernard commet un impair, puisqu'il mêle l'une et l'autre devant des étrangers, en l'occurrence le narrateur et Saint-Loup. Mais que dire de l'allusion au conte de Camisot ? Pour justifier ce terme yiddish. N'est-ce pas plutôt Camisot qui reprend un mot yiddish, mi-allemand, mi-juif, que le yiddish lui-même comme source du mot, que de périphrases pour éviter le terme. Il s'agit de l'étrange histoire de Peter Schlemihl, ou l'homme qui a vendu son ombre, et voici comment Camisot, c'est une histoire largement autobiographique, du comte de Chamisso de Boncourt, hein, immigré français de 1792, dans son enfance, avec sa famille, devenu écrivain allemand. On aurait dû avoir une communication sur lui dans le cours de ce colloque. Il est un peu le prototype, l'un des modèles de cette écriture. Et voici comment il commentait le terme dans une lettre à son frère, Hippolyte, qui est le traducteur du petit roman, en français. Il lui écrivait ceci pour expliquer son titre. C'est un nom hébreu qui signifie à peu près Gottlieb, Théophile ou aimé de Dieu. Dans le jargon juif, on appelle de ce nom des gens malheureux ou maladroits auxquels rien ne réussit. Un schlemil se casse le doigt dans la poche de sa veste, tombe sur le dos et se fracture le nez et arrive toujours mal à propos. Maudit, Peter Schlemihl deviendra une sorte de juif errant. Camusot écrivait à Madame de Staël en 1810 « Ma patrie, je suis français en Allemagne et allemand en France, catholique chez les protestants, protestant chez les catholiques, philosophe chez les gens religieux et cagot chez les gens sans préjugés, homme du monde chez les savants et pédant dans le monde, jacobin chez les aristocrates et chez les démocrates un noble, un homme de l'Ancien Testament, de l'Ancien Régime, pardon. Je ne suis nulle part de mise, je suis partout étranger, je voudrais trop étreindre, tout m'étache, tout m'échappe, je suis malheureux. » Voici, en quelque sorte, le revers du cosmopolitisme, au temps de la montée des nationalismes. Michel évoquait tout à l'heure les deux côtés, une sorte d'euphorie et de dysphorie de la langue double. Et on a là un magnifique exemple de ce malheur, de cette mélancolie de l'émigré perpétuel, de l'apatride chassée de sa langue, éloignée de sa langue d'enfance, comme s'il avait perdu son ombre. L'ombre est une métaphore de la langue. Le côté noir du sujet, la perte d'identité, après la jubilation de la traversée de la langue. Au fond, pas de meilleure illustration et du titre du colloque et du titre que j'ai choisi moi-même pour cette communication, mais c'est un petit peu un hasard que je l'ai retrouvé. Ma langue en France, ça pourrait être une communication sur Camusot qui écrit « Oui, j'ai perdu mon ombre, mais je puis la retrouver. » Je sortis en chancelant du jardin et il me sembla que le paradis se fermait derrière moi et que j'étais poursuivi par l'épée flamboyante de l'ange des vengeances, comme d'une sortie de l'Éden. Chez Proust, bien sûr, l'allusion passe par une langue que les blocs partagent avec leurs coreligionnaires originaires d'Europe orientale, mais qu'ils bannissent devant les étrangers. Et le narrateur lui-même a recours à une périphrase, dialecte mi-allemand, mi-juif, comme s'il évitait le mot yiddish. Chaque fois que Proust utilise le mot Schlemihl, il l'emprunte non pas au yiddish, mais à Camusot. Par exemple, dans une lettre à son cousin, Lionel Hozer, qui est son agent de change, et Proust parle de son incapacité dans la spéculation bancaire et de la manière dont ses banquiers le trouvent un peu Schlemihl pour cela, le côté personnage de Camusot subsistant, hein, comme si on avait besoin de ce détour. Proust s'est beaucoup intéressé à ce phénomène des langues privées, des langues tribales. Il le commente longuement dans un passage de La Prisonnière où il est question de la générosité des Verdurins envers Saniette, leur souffre-douleur dans le besoin. Il est leur souffre-douleur, mais ils sont généreux avec lui. Ils veulent lui donner de l'argent, lui établir une rente, mais discrètement, pour éviter des scènes de remerciement, dit M. Verdurin. Leur intervention doit rester secrète, être non ostentatoire. Je cite, « M. Verdurin ajouta un mot qui signifiait évidemment ce genre de scène touchante et de phrases qu'il désirait éviter, mais il n'a pu m'être dit exactement. » On ne sait jamais d'où viennent les informations du narrateur dans la recherche du temps perdu, car ce n'était pas un mot français, mais un de ces termes, comme on en a dans les familles, pour désigner certaines choses, surtout les choses agaçantes, probablement parce qu'on veut pouvoir les signaler devant les intéressés sans être compris. On retrouve ces parents qui parlent devant les domestiques ou devant les enfants sans être entendus, et pour désigner des choses agaçantes, bon, ce sont encore des mots yiddish qui viennent à l'esprit, « Oy Gewalt, Meshuga ». Si on a habité un peu à New York, on parle un peu d'yiddish. Monsieur, le narrateur poursuit, « Ce genre d'expression, il y a une longue analyse, je ne peux pas la commenter en détail, ce genre d'expression est généralement un reliquat contemporain d'un état antérieur de la famille. Dans une famille juive, par exemple, ce sera un terme rituel détourné de son sens et peut-être le seul mot hébreu que la famille, maintenant francisée, connaisse encore. Dans une famille très fortement provinciale, ce sera un terme du patois de la province, bien que la famille ne parle plus et ne comprenne même plus le patois. Dans une famille venue de l'Amérique du Sud et ne parlant plus que le français, ce sera un mot espagnol. Et à la génération suivante, le mot n'existera plus qu'à titre de souvenir d'enfant. On se rappellera bien que les parents, à table, faisaient allusion aux domestiques qui servaient sans être compris d'eux en disant tel mot, mais les enfants ignorent ce que voulait dire au juste ce mot, si c'était de l'espagnol, de l'hébreu, de l'allemand, du patois. Même si cela avait jamais appartenu à une langue quelconque et n'était pas un nom propre ou un mot entièrement forgé. Oui, Proust tourne avec ce judéo-espagnol et ce judéo-allemand autour du yiddish et va jusqu'à cette langue privée. Et cette scène évoque la survivance d'un précepte juif recommandant la bienfaisance tout en proscrivant l'ostentation. Sagnette est le schnorreur, le mendiant entretenu, suivant le principe de la tzedaka, l'aumône, d'après le terme hébreu désignant la justice plutôt que la charité. Car la vraie charité est anonyme pour ne pas humilier le pauvre, selon M. Verdurin, pour ne pas exposer sa philanthropie, pour épargner la dignité et la pudeur. Certains lecteurs en ont déduit que M. Verdurin était juif ou avait une origine juive. Le contexte peut en effet le suggérer. Entre le mari et la femme, comme entre les frères et sœurs, revoilà cette langue privée, ancienne, résiduelle, signe de complicité, cette langue originaire, primitive, qui est sublimée dans la littérature par Bergotte ou par Proust, cette langue qui le sauve de l'oubli, cette langue d'enfance. Merci.
Merci Antoine de cette communication qui est tellement vous, qui est tellement vous, non seulement par le talent, non seulement par l'utilisation de Proust, mais par ce mouvement qui vous a fait dire « Non, je n'ai pas de langue, non, aucune langue n'est la mienne, on ne peut pas dire qu'une langue soit ma possession. » Et puis, immédiatement après, « Ah oui, mais la langue de la fratrie, ça c'est quelque chose qu'on possède. » Et après tout, que ce soit de la langue de la mère ou la langue des parents ou la langue de la fratrie, c'est la même connivence, d'une certaine façon, mais pour vous, c'est tellement la langue de la fratrie. Et avant de passer à la discussion, un mot, effectivement, il aurait dû peut-être y avoir une communication sur Chamisso. Mais non seulement Chamisso est un exemple en or de ce genre de situation, donc français émigré devenu poète de langue allemande, non seulement c'est un exemple qui a nourri notre culture. Quand j'étais enfant, on nous faisait lire en classe allemande, d'une part Peter Schlemihl, et d'autre part quelques poèmes, en particulier le fameux Schloss Moncourt, le poème sur le château de son enfance. Il est possible que Proust a fait de l'allemand, et probablement, c'est de ça que ça vient, de même que, enfin, bon, j'ose pas parler Proust devant vous, que là, son utilisation de Racine est très scolaire, d'une certaine façon. Il cite les tragédies qu'on étudie en classe et les passages qu'on étudie en classe. Mais dans le cas de Chamisso, le lien entre la langue et la famille apparaît justement dans ce petit poème, que pas extraordinaire, Schloss Boncourt, et dans le fait que Chateaubriand dit que quand il a rencontré Chamisso, eh bien, ils se sont attendris et ils ont plaisanté sur le fait qu'il y a une sorte de métathèse ou de contrepétrie entre les châteaux perdus, Boncourt et Combourg. Et il y a les deuils immobiliers sont de vrais deuils, sont des deuils extrêmement profonds et sont des deuils qui sont comparables au deuil de la langue, de sorte que la superposition chez Chamisso est tout à fait frappante, et c'est quelque chose que Chateaubriand, auteur si français dans le Très bien, très bien vu. Enfin, excusez-moi, c'est moi qui parle, alors que c'est la discussion qui commence. La discussion, c'est pas moi.